RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonsoir, bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire, toujours en trois dimensions à travers la radio, à travers Facebook Live, en direct donc sur Internet et aussi sur la télévision avec France 24. Alors nos invités sont déjà là, ils sont au rendez-vous, ce dernier rendez-vous avant la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Donc c'est important et je vais commencer par le petit jeune de la bande. O Magnifico, comme on l'a surnommé, parce que je le dis en portugais, comme il aime bien être appelé Garincha. Voilà. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Ah, vous êtes sur un siège important, hein, ouais. Déjà, et passé Alejandro Valente, le Recé à votre place.
L'héritage un peu.
Héritage. Aussi et Frédéric Suto, mais qui est déjà du côté de Doha. Donc voilà, on que vous a donné la charge aujourd'hui. À vos côtés, Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Sacré et débatteur, hein, Naïm. Hein.
Ouais, oui, oui, oui. Avec Rémi, ça va faire des intercelles. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui, surtout que
le lion est calme.
Le lion est très calme, surtout que avec l'excellente performance que nous avons réalisée face au Panama, ça montre déjà que nous n'avons aucun adversaire qui pourra se
vous renverser.
Ah voilà, franchement, parce et que contre le Panama, mais on a montré les muscles. Panama
et la crinière.
Après la Jamaïque, Panama.
Mais Rémi, il vaut mieux commencer doucement, hein, une compétition et surtout pas être blessé. Justement, des blessés, nous en parlerons dans cette émission. Malheureusement, autour de Sadio Mané. Il est forfait, le lion de la Teranga. La star africaine ne jouera pas cette Coupe du Monde. Une énorme déception au Sénégal. Mais les lions sauront-ils rebondir pour leur dernier match contre les Pays-Bas? À J-2 du coup d'envoi de cette Coupe du Monde, hors norme, nous nous demanderons qui en est le favori. Qui de Messi, Neymar, Mbappé ou Cristiano, hein, que de stars, soulèvera le trophée doré dans un mois, très exactement. Nous essaierons de l'envisager. Gianni Infantino, seul au monde, le président sera l'unique candidat à sa propre succession pour un troisième mandat en mars prochain. Pourquoi n'a-t-il donc aucun adversaire déclaré? Nous parlerons donc de la FIFA, nous parlerons aussi de vous à travers vos cartons, bien sûr, et les nôtres, nous vous les présenterons en fin d'émission. Au générique, il y a aujourd'hui David Finzel et Sarah Lou Bakouche qui m'ont aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Pour les moyens vidéo, il y a Souel Kedir, Léo Bernard et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Une équipe nationale du Sénégal sans Sadio Mané, ça nous a choqués. Sa blessure nous a tous pris au dépourvu.
C'est vraiment un coup dur pour tout le peuple sénégalais.
S'il n'est pas là, il faut que les autres essaient de faire le mieux.
On va le faire comme on a l'habitude de le faire. Demba Dier. Et Demba Dier avec vous. We love you. Sénégal rec. One Sénégal. Sénégal Sukanam.
El Hadjidou, vous avez reconnu sa voix. Il souhaite donc bonne chance au Sénégal. Et oui, l'inquiétude est devenue tristesse. Elle est devenue déception aussi. Sadio Mané est donc forfait pour la Coupe du Monde. Nous l'avons appris hier soir. Le champion d'Afrique, deux fois sacré meilleur joueur du continent ces dernières années, manquera donc à l'appel du Sénégal et d'Aliou Cissé. Son forfait était craint. Il a été donc confirmé alors que l'attaquant des Lions de la Teranga était déjà en pleine opération, opéré de sa lésion au péroné et opéré avec succès. On imagine facilement l'immense déception que représente le renoncement pour Sadio Mané. C'est un véritable soldat, on le sait, dédié à son travail, dédié aussi à toutes les causes qu'il défend du côté de Bambali. Je vais commencer par vous, Naïm Moniol. On voulait parler d'abord de la déception humaine avant tout, parce qu'on se prépare des mois. On a été sacré champion d'Afrique. On sait que finalement, en ligne de mire, il y a une Coupe du Monde.
C'est le rendez-vous d'une carrière, une Coupe du Monde. C'est plus qu'une CAN, plus qu'une Ligue des Champions.
Il était à la dernière, hein, bien sûr. Oui,
il était à la dernière. Mais très, très peu de joueurs jouent deux Coupes du Monde. Déjà, en jouer une,
c'est la troisième fois pour le Sénégal. Déjà, il faut réussir à se qualifier.
Et puis, il faut se qualifier. Et puis, il y a les espoirs qui reposent sur cette équipe. Elle est passée au travers, il y a 4 ans, pour une histoire de fair play. Cette année, c'est l'équipe des 5 qualifiés africains qui a le plus de chances de sortir de la poule. Sadio Mané est un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas un des meilleurs joueurs africains, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est vous dire un peu la perte. Donc, effectivement, c'est une perte humaine terrible pour lui, pour le Sénégal, pour le continent africain et même pour les amoureux de football. Sadio Mané, il a enchanté Liverpool, il fait les beaux jours du Bayern Munich. On le connaît à l'autre bout du monde, on a envie de voir ce joueur de foot. C'est une déception immense. Et à 30 ans, est-ce qu'il dans 4 ans, il aura toujours l'opportunité d'avoir le niveau, d'être en Coupe du Monde? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être la dernière chance qu'il avait, donc c'est d'autant plus terrible.
Rémi, j'imagine que sur le continent africain dans son ensemble, il y a une grande déception. Il n'y a que 5 équipes, c'est un continent immense et Sadio Mané le représente plutôt bien.
Il représente, comme vous avez d'abord dit, son humanisme, son humilité. C'est quelqu'un qui passe partout. Et puis aussi sa combativité, parce que c'est un véritable lion. C'est l'espoir, pas seulement d'une nation, mais de tout un continent. Parce que beaucoup de gens pleurent par rapport à Sadio Mané. Il faut aussi savoir que si le Sénégal est aujourd'hui là, c'est parce que Sadio Mané a été un véritable leader. C'est-à-dire que le 6 février, c'est lui qui donne la victoire, la CAN au
avec
Sénégal,
son penalty.
En marquant. Et bien sûr, le 29 mars, c'est encore lui qui répète cet effort-là et qui marque. Et de surcroît, il faut quand même voir que sur cette équipe du Sénégal, sur les 25 derniers buts, Sadio Mané est auteur de 12, sans voir les contributions. C'est-à-dire, il est auteur, donc il est pratiquement l'homme de plus de 60-70% de cette formation-là. Ce qui veut dire que c'est un véritable moteur qu'on perd dans un véhicule.
On va revenir sur l'importance, son importance dans la sélection, mais aussi les atouts qu'a quand même le Sénégal, et il en a beaucoup. Mais Xavier Barré, le problème en plus, c'est que en fait, hier, avec cette opération, peu de temps après la blessure, le chemin de croix de ce pauvre Sadio Mané ne fait que commencer, parce qu'il va aussi manquer à son club. Il est forfait théoriquement pour 3 mois et donc il y a la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain qui arrivera le match de 8e de finale dans 3 mois et c'est incertain.
Oui, c'est incertain et c'est évidemment, entre guillemets, le deuxième objectif de sa saison qui se retrouve déjà, comme vous dites, incertain, c'est-à-dire que la saison pourrait presque être terminée pour Sadio Mané si d'aventure le Bayern ne franchit pas, ne bat pas le Paris Saint-Germain. Parce qu'après, bon, ils seront champions d'Allemagne comme d'habitude. Donc, bon, pour lui, ce sera le premier titre en Allemagne, c'est bien. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que. Mais moi, je pense d'abord à la Coupe du Monde, si vous voulez. Parce que c'est vrai que cette Coupe du Monde sans lui, d'ailleurs, on l'avait mis sur la couverture de notre guide parce qu'on croyait vraiment à cette équipe du Sénégal, comme le disait Naïm Moniol, dans un groupe où il y a vraiment une carte à jouer pour les Sénégalais, avec un tableau, une partie de tableau un peu dégagée. Bon là c'est vrai que sans lui les statistiques que ramenait Rémy Ngono, qui pour une fois sont pas des statistiques qui remontent au calendrier grec, sont intéressantes. Donc sans lui malheureusement il faudra que les Sénégalais trouvent des solutions dans ce groupe, dans ces joueurs, et il y a du talent pour être capable d'avancer sans lui. Ça va être compliqué, mais...
Le souci, c'est que d'abord, d'un point de vue numériquement parlant, tu ne remplaces pas Sadio Mané à valeur égale. C'est-à-dire que si tu le remplaces, que tu mets un mec à son poste, tu sais que tu as un joueur qui est moins fort. Ou alors il faut changer le dispositif. Ce qu'on a un peu vu sur le début de la CAN, quand il avait fait un 4-4-2 avec 2-6, deux mecs sur les côtés, Mané qui tournait autour de Boulaïdia, ça n'a pas été fait sur les matchs les plus importants, notamment la victoire à la CAN et le barrage. Ils se sont qualifiés en 4-3-3, donc il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas aujourd'hui d'individualité capable de remplacer Sadio Mané. Et collectivement, je ne crois pas non plus que le Sénégal, sur ce qu'on voit depuis 2-3 ans, insuffle quelque chose d'extraordinaire qui nous permette de dire « Bon, sans Mané, il y a un dispositif qui nous permet quand même de franchir les huitièmes. »
Justement, on voulait parler des autres atouts de cette équipe du Sénégal qui s'est quand même hissé sur le sommet de l'Afrique. Et il n'était pas tout seul, Sadio Mané, même s'il marque le tir au but essentiel. C'est une équipe qui a donc été sacrée à Yaoundé, une équipe sérieuse. C'est une équipe où il y a Kalidou Koulibaly, notamment, qui est le capitaine, qui est le défenseur. On a aussi le gardien, qui était l'année dernière le meilleur gardien d'Europe, qui était Edouard Mendy.
Hein.
Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'atouts?
Non.
Il y a aussi Aliou Cissé, c'est quand même un staff stable depuis une dizaine d'années.
La régularité du Sénégal, elle est exemplaire, surtout en Afrique, où on change d'entraîneur toutes les 3 semaines.
Exactement.
Donc ça, c'est une chose.
Il y a un vrai travail collectif.
Oui, mais le travail collectif, c'est évidemment, il y a des joueurs de qualité. Kalidou est un bon joueur, Crépin Diata est un bon joueur, Boulaïdia est un bon joueur.
Bamba Dieng.
Il ne joue pas à Marseille, donc il va peut-être avoir un petit problème de rythme. Mais la question, ce n'est pas de savoir si le Sénégal a des joueurs de talent. Bien sûr qu'ils ont des joueurs de talent. Le problème, c'est que c'est une équipe qu'on critique depuis 2-3 ans, et à juste titre, parce qu'au regard des joueurs qu'elle a, elle joue pas bien. Et que Sadio Mané, ça a toujours été le détonateur de cette équipe. Rémi a donné des chiffres, alors j'ai pas vérifié, je devrais quand même parce que je le connais. Mais sans Sadio Mané, il n'y a pas de victoire à la CAN en fait. C'est pas qu'il a marqué le but de la finale, c'est que sur les matchs élimination directe, c'est lui le meilleur. Alors effectivement, il y a des joueurs de qualité. Kalidou, c'est un très bon défenseur. Il y a des bons joueurs. Mais la vérité, c'est que si vous perdez Sadio Mané, le groupe A, il est très facile à lire. Les Pays-Bas, c'est au-dessus. Le Qatar, c'est en dessous. Il reste une place à jouer entre le Sénégal et l'Équateur. Avec Sadio Mané, le Sénégal, c'est meilleur que l'Équateur. Pas de trois étages. Il n'y a pas une expression collective incroyable, un défi physique de fou. Mais parce que vous avez un des meilleurs joueurs du monde qui va vous faire la différence, qui sait faire jouer les autres, qui va marquer et créer des pénaltys. Sans le Sénégal, bah malheureusement, le rapport de force, il est en faveur de l'Équateur.
Rémi, est-ce que vous pensez, vous aussi, que ça va être plus compliqué? Alors, il y aura son ombre, évidemment, sur l'équipe, mais est-ce qu'Aliou Cissé n'a pas les armes pour au moins sortir des huitièmes? Enfin, passer en huitièmes, pardon.
Je crois que en 2018, Aliou Cissé a prouvé qu'il pouvait collectivement bien jouer. Je peux vous dire d'ailleurs que Sadio Mané n'avait marqué qu'un seul but.
C'est ce qu'on a vu contre le Japon.
Pétition. Voilà. Ouais. Donc, il n'avait pas d'ailleurs été très, très brillant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que même l'équipe du Sénégal de 2002, on attendait plutôt Diouf, qui était la star de l'équipe.
Il y avait eu Fadiga.
Personne ne l'a vu. Ou pas. Ou plutôt, il n'a pas marqué dans la mesure où c'est Papa Diop qui a marqué 3 buts. On a d'ailleurs vu Diao qui avait marqué 2 buts, tout comme aussi Fadiga qui avait marqué 2. Bref, il y avait 4 buteurs. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans cette équipe du Sénégal. Si Cissé avait beaucoup misé sur Mané, ça va échouer. Mais s'il rectifie comme il avait rectifié le tir justement à la Coupe du Monde lorsque Sadio Mané n'était pas bien.
Ça fait 10 jours qu'il doit y penser.
Moi, j'ai dit, cette équipe du Sénégal, même si les cadres aujourd'hui ne sont plus exactement ce qu'ils étaient, ils ne sont pas trop confiants parce que quand on dit, par exemple, que Koulibaly n'est plus exactement ce qu'on croyait que c'était véritablement un roc qu'on ne pouvait pas passer. Lorsqu'on voit le gardien... Mais j'ai dit quand même, une équipe du Sénégal doit d'abord compter sur le collectif et non sur une individualité.
En l'espace de 4 ans, je te coupe 3 secondes, désolé. En l'espace de 4 ans, Sadio Mané a quand même pris une dimension avec Liverpool qu'il n'avait pas en 2018. Ça, c'est pas du tout même joueur, en fait.
Xavier, moi, j'aimerais que vous me disiez surtout, parce que le premier match, c'est donc lundi. On est à 3 jours là, du match du premier. Ça sera la première équipe africaine à rentrer en piste, qui est le Sénégal. Ça sera contre les Pays-Bas. Comment vous voyez justement cette équipe du Sénégal par rapport au groupe des Pays-Bas qu'on connaît bien avec Depay, avec
Ils ont une chance, quelque part, c'est qu'ils rentrent en outsider. C'est vrai qu'ils étaient très attendus, mais l'absence de Sadio Mané, du coup, ça leur enlève un peu de pression.
Ils étaient outsiders face aux Pays-Bas, même avec Mané, quand même.
Ils sont quand même champions d'Afrique, donc ils avaient... Il faut rappeler une chose, c'est que ce match avait été prévu comme match d'ouverture.
Oui.
Puisque au départ...
Le match d'ouverture avec la grande cérémonie,
Ce qui change absolument rien au niveau des deux équipes.
Si, parce que je vous rappelle... Non, au moment du tirage au sort...
Parce que tu joues le dimanche au lieu du lundi, que t'es meilleur, qu'est-ce que tu racontes?
Au moment du tirage au sort, non mais c'est...
C'était en 11 du matin.
Xavier Barré, s'il vous plaît.
Écoute. Quand j'ai fait mon guide, c'était le match d'ouverture. Et on a dû corriger mi-août.
Le premier match.
Voilà, c'était le match d'ouverture de la compétition. Et quand on a dû corriger le 12 août, quand le communiqué de la FIFA est tombé un soir à 22h, parce que il y avait ce changement et on a avancé de 24 heures le match du Qatar contre l'Équateur, alors que tout le monde savait que c'était pas une affiche.
C'est pas parce que tu as avancé le match de 24 heures que l'équipe est meilleure ou moins forte.
Ça veut dire que le Sénégal était une équipe plus attendue que les autres, puisqu'on la met en ouverture contre les Pays-Bas. Là, le fait qu'il n'y ait pas Sadio Mané, inconsciemment, ça les dévalue pas en eux-mêmes, mais ça dévalue le potentiel de l'équipe, évidemment. Donc, du coup, ce qui veut dire qu'ils abordent ce match contre les Pays-Bas avec moins de pression, puisqu'ils sont plus favoris. Ils ont moins de pression, puisque les Pays-Bas sont clairement favoris.
Comment tu peux démarrer une Coupe du Monde avec moins de pression quand tu perds ton meilleur joueur? Mais est-ce que tu te rends compte qu'au goal, tu peux d'ores et déjà être éliminé sur ce match selon le score, parce qu'au goal average, à la différence de but, peut-être que tu vas être pénalisé.
Crois que le Sénégal va perdre 4-0?
Le Sénégal va perdre 4-0, mais je te dis que le Sénégal, qui est quand même nettement moins fort sans Sadio Mané, c'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Le Sénégal, il gagne rarement.
Mais attendez, lorsque vous pouvez même me dire aussi une équipe des Pays-Bas qui est très forte, oui, au classement FIFA.
Ils sont pas très forts,
au classement FIFA. Mais je peux te dire, mais quand tu dis au-dessus, je ne vois même pas au-dessus, parce que même aujourd'hui, vu Depay également, lui, il est en difficulté, il ne joue pas.
Ah, parce donc, que les Pays-Bas, c'est peut... Depay. Bon, Depay, il n'a pas joué sur les derniers matchs de Ligue des Nations, ils ont tout gagné. Depay n'a pas joué les derniers matchs de Pays-Bas, ils ont tout gagné.
S'il te plaît, mais j'ai dit, l'équipe du Sénégal avait battu la France, championne du monde en titre.
En 18e siècle,
les Pays-Bas n'ont jamais rien fait. Il ne faut pas nous présenter les Pays-Bas comme étant le dragon qui sera contre le Sénégal.
Trois finales de Coupe du Monde.
S'il vous plaît, on ne s'entend pas. Les auditeurs et les spectateurs ne comprennent rien. Rémi, en tout cas, les Pays-Bas ont quand même fini ces derniers temps. Alors, ils n'étaient pas à l'Euro.
Ils ont été à la dernière Coupe du Monde.
À la dernière Coupe du Monde, pardon. Mais sinon, ils ont quand même été troisième de la Coupe du Monde de 2014 et tout. Il y a Van Dijk, il y a des joueurs.
Ils ont brillé en Ligue des Nations, mais effectivement, les Pays-Bas, ce n'est pas une très forte équipe. Ça n'a plus rien à voir avec la génération des années 2000. Mais si vous prenez les quatre équipes de groupe, évidemment que c'est au-dessus. Mais ce n'est pas infamant pour les autres de le dire. Ils sont au-dessus. Ils ne sont pas très forts d'en dire. Les Pays-Bas, ils sont...
Excusez-moi, oui,
les
Pays-Bas,
ils sont invaincus sur la dernière campagne de Ligue des Nations. Ils ont quand même une des défenses, je pense, les meilleures d'Europe, si on prend les équipes européennes. Qu'on n'essaye pas de me dire c'est pas au-dessus. Mais évidemment que c'est au-dessus, les Pays-Bas, bien sûr.
Bon, ça sera donc le match de lundi dans cette Coupe du Monde. Ça commencera donc pour les équipes africaines. Et on souhaite tous bonne chance aux Lions de la Teranga, hein, ceux du Sénégal, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, Rémi. Et on souhaite aussi un très bon rétablissement à Sadio Mané. On continue parce qu'on rentre donc dans les choses sérieuses du côté de ce Qatar 2022. Une petite visite en images pour ceux qui nous suivent à travers le Facebook Live sur Internet. C'est donc en plein désert, en tout cas officiellement, du Qatar, en tout cas au nord de la capitale précisément, de Doha, que commencera cette Coupe du Monde et que sera donné le coup d'envoi. Ce sera à 16h GMT, donc 16h TU, pardon, pour ce qui est du premier match, sous une tente de Bédouins. Alors, cette tente, évidemment, pour ceux qui peuvent regarder les images derrière, c'est un stade, évidemment, flambant neuf, mais sous une impression et une ressemblance avec une tente qui rappelle, évidemment, ce passé pas si lointain pour les Qatariens et pour les 9 tribus de Bédouins qui forment aujourd'hui donc cette nation d'à peine 300 000 habitants. Une magnifique construction, il y aura 60 000 places, on imagine qu'il sera plein pour ce match d'ouverture. Est-ce qu'il est aussi beau que les autres, Xavier Barré? On a l'impression quand même que là, on n'a pas lésiné sur la qualité, sur la taille et aussi sur finalement l'apparence, en tout cas des stades et sur l'architecture.
Ils ont mis effectivement le paquet pour ce qui est la vitrine de ce pays qui n'a que 50 ans. Moi, quand je suis né, ça n'existait pas, le Qatar. Donc,
tu vas pas nous faire croire que t'as moins de 50 ans.
Justement, c'est pour ça que je te dis, j'en ai plus. Et donc, non, c'est un pays qui a effectivement une expansion phénoménale grâce à l'argent du gaz qui est dans ses sous-sols. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, ils ont eu cette politique de soft power à travers la communication, à travers le groupe Al Jazeera, beIN Sport, et puis à travers le sport. Ils ont investi déjà dans la création d'un championnat professionnel. Ils avaient fait venir au début des années 2000 Pep Guardiola, Gabriel Batistuta, Mario Basler, Stefan Effenberg, enfin plein de joueurs pour donner championnat. Des Français aussi comme Marcel Desailly, Franck Leboeuf ou Christophe Dugarry pour donner un peu de notoriété à leur championnat. Et puis surtout derrière, ils ont essayé à l'époque de créer une équipe nationale en naturalisant des Brésiliens notamment. C'était Philippe Troussier qui était le sélectionneur. La FIFA y a mis son veto. Et là, ils sont partis sur un projet à long terme, avec notamment l'Académie Aspire, qui prend des jeunes d'un peu tous les continents et qui essaye de structurer le sport là-bas. Et il faut reconnaître que s'il y a une face négative, on en parle beaucoup partout, ce qui concerne le traitement des ouvriers notamment, le droit du travail pratiquement inexistant, la protection sociale néante également. Il y a en revanche au niveau du projet, une vraie vision. Et moi, je me souviens encore en parlant avec Philippe Troussier, il me dit, quand tu parles avec les princes du Qatar, et à l'époque, Tamim n'était pas encore émir, il me disait, ils te présentent des projets pour le développement de leur pays en 2030, voire en 2040, parce qu'ils savent qu'eux, ils seront là sur le long terme, contrairement à nos régimes démocratiques et républicains, où là, effectivement, les élus le sont pour 4 ou 5 ans, rarement plus.
C'est-à-dire que le Qatar a essayé d'acheter ou de fabriquer très vite ce que l'Arabie Saoudite a construit en matière de football. Pour le coup, dont la passion n'est pas feinte, elle n'est pas fabriquée de toutes pièces. Il y a un vrai savoir-faire en Arabie Saoudite, qui n'est pas un championnat extraordinaire, mais qui ancestralement, sur cette partie du monde, est quand même le championnat majeur. Et les Qataris, au début des années 2000, quand vous parlez d'architecture, et Xavier parlait de l'Académie Aspire, il faut se rappeler les stades qui étaient pour les gamins. Moi, j'ai commenté il y a plus de 10 ans des matchs à l'Académie Aspire, des compétitions de jeunes qui se déroulaient au Qatar. Les stades étaient extraordinaires. Les gosses avaient 16 ans. Il n'y en a aucun qui a percé, d'ailleurs.
Et ça, ce sont des stades qui sont d'ailleurs utilisés pour que les équipes
s'entraînent.
Bien sûr.
S'entraînent, et même dans la ville, les immeubles, les centres commerciaux, tout a un espèce de design. Tout est conçu un peu de manière moderne, presque futuriste, pour se démarquer. C'est aussi opulent. C'est aussi montrer sa richesse et sa capacité en savoir-faire, son savoir-faire d'un point de vue architectural. Ça ne fabrique pas une équipe de foot. Ça n'achète pas le talent. Attention. Hein.
On va en parler de l'équipe.
Ça fait d'un coup de main.
Rémi, il y a peut-être des inquiétudes autour de la compétition. On voit par exemple que là, tout d'un coup, les règles du jeu viennent de changer à quelques heures de l'ouverture. Alors, en ce qui concerne la vente d'alcool autour des stades, c'est pas que je défende spécialement l'alcool, mais je veux dire, tout d'un coup, on a un changement de règles à quelques heures et les gens commencent à se dire, mais alors si on change ça, parce qu'évidemment, il y a un très gros sponsor de la compétition qui vend de la bière. Mais il y a eu aussi une mauvaise expérience pour ce qui était du match test, où ça s'est mal passé sur le plan des flux, sur le plan des transports, parce que le stade est un peu perdu dans les sables.
Mais l'expérience, c'est la somme des échecs. S'il n'y a pas de match test, et encore comme je dis, et vous le constatez, par exemple, Lusail, c'est des villes qui ont été construites et qui n'avaient jamais abrité.
Là où il y aura la finale.
Voilà, d'événements. Donc, il fallait bien tout essayer. Et je crois que lorsque vous avez déjà vu là, il y a eu des erreurs, vous essayez de reprogrammer ou alors d'essayer de corriger. Moi, sur ce côté-là, je n'aurais pas d'inquiétude parce que ils ont prévu beaucoup de choses et je crois que, certes, aujourd'hui, les règles, c'est les règles qui changent et qui inquiètent beaucoup parce que, par exemple, cette vente d'alcool, il fallait bien dire aux gens avant. Peut-être certains auraient eu à faire un peu de réserve dans leur estomac avant de partir. Et c'est ça qui crée de l'ambiance dans les stades.
C'est surtout vis-à-vis du sponsor, en fait, parce que les gens, il y aura des lieux, et notamment, ils vont laisser dans les fan zones.
Aux abords des stades, voilà. Il faut bien préciser que la vente, c'est
autour des stades. Il devait y avoir des points de vente 3 heures avant le début d'un match. Bon, en tout cas, l'affiche de ce match d'ouverture, donc, ce sera entre le Qatar et l'Équateur. Moi, j'aimerais, Xavier Barret, que vous me parliez du Qatar. Donc, le coup d'envoi sera donné à 16h en temps universel. Évidemment, la cérémonie, toute la présentation qui a lieu avant commencera avant cette heure-là. Parlez-nous du Qatar. Xavier, je sais que vous aimez bien les footballs exotiques. Et surtout, je crois qu'on est tous incapables de dire le nom d'un joueur pour l'instant.
Il y a Al-Mouez Ali, qui a été le meilleur buteur.
Je pense que vous allez nous citer les 11.
qui est le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Asie.
Oui,
ils sont champions d'Asie. Mmh. Et ils ont été champions d'Asie il y a 2 ans, non, en 2019, pardon, il y a 3 ans. Ils ont été champions aux Émirats, alors qu'il y avait encore le blocus du Qatar par ses voisins, l'Arabie Saoudite et les Émirats notamment, qui a obligé d'ailleurs le Qatar à créer tout un tas d'infrastructures qu'il n'avait pas puisqu'il achetait les produits chez ses voisins saoudiens notamment. Donc, ça a été une vraie démonstration pour cette équipe du Qatar qui a battu en finale le Japon. Et donc, c'est une équipe qui est quand même très performante. Félix Sanchez qui a été à la Masia, donc qui a été bien formé, qui a été un bon formateur, puisqu'on sait que Barcelone, c'est la référence, n'en déplaise à Rémy Ngono. Et puis, il y a aussi le fait qu'après avoir longtemps travaillé à l'Académie Aspire, dont on parlait tout à l'heure, il a pris l'équipe nationale et il a continué à la développer en s'appuyant sur ces jeunes très majoritairement, il y a quelques naturalisés, mais ces jeunes formés au Qatar. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Après, ils ne vont pas gagner la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas trop les superviser. Moi, je vous donne juste un chiffre. c'est le nombre de points qu'ils ont accumulés dans le groupe Europe. 9 points, ils ont fait quand même, puisqu'ils ont été invités par l'UEFA à participer aux éliminatoires de la zone Europe dans le groupe du Portugal de Cristiano Ronaldo, de la Serbie de Vlahovic, l'Irlande également.
Il y avait
le Luxembourg et l'Azerbaïdjan.
Ils ont déjà fait un quart de finale de la Copa América quand ils sont invités. Hein. C'est... Mais le problème de ces équipes-là, c'est des équipes, on dit, ils ont beaucoup progressé. Mais bien sûr, elles partent de rien. Elles partent de zéro, elles ne peuvent pas être moins fortes. Donc effectivement, qu'elles progressent. Le championnat qatari, on peut me dire ce qu'on veut, ça progresse, il y a des stades, il y a des moyens, on fait venir. C'est un championnat qui n'a pas tellement progressé, c'est un championnat très moyen, que s'y ramener à la France, c'est un championnat amateur. Donc les joueurs, ils ont certainement des qualités individuelles, c'est pas, puis ils vont se donner, ils sont chez eux à domicile, puis il y a une telle pression, puis on en dit tellement de mal, il faut aussi se mettre à la place des joueurs, on en dit tellement de mal de cette Coupe du Monde, on dit tellement de mal de leur pays, que peut-être que les mecs, ils ont envie de montrer autre chose. C'est une certitude, j'en fais pas une victime expiatoire, ils vont pas prendre 3 fois 10-0. On va pas non plus vendre du rêve et raconter n'importe quoi. Ça serait un exploit, et je pèse le mot, de voir le Qatar sortir de la poule.
En même temps, Rémi, on sait que sur les dernières compétitions, et je pense par exemple à celle qui s'était déroulée en Asie, les pays organisateurs essayent justement, mettent un point d'honneur à sortir de la poule, à se qualifier au moins pour un huitième de finale et pour continuer à passionner les foules des pays organisateurs. Est-ce que vous voyez le Qatar, alors on a l'impression en lisant tout ce qu'on lit de nos confrères qu'il n'y a pas un engouement du côté de la population qatarienne, des 300 000 personnes, mais vous pensez quand même que, je sais pas, ils vont sortir de ce groupe ?
Je ne peux pas, pour l'instant, le
prévoir.
Tu vas
dire oui parce que j'ai dit non.
Je peux pas le souhaiter. De toutes les façons, en tant qu'Africain, je voudrais d'abord que ce soit le Sénégal. Donc, mais cependant, comme je dis, le Qatar, il dit, ça n'évolue pas, mais ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, le Qatar...
Au moins sur les constructions, ça a évolué, oui.
Pas ça. Et moderne. Même au plan FIFA, au classement, ils sont déjà 49e. Lorsque vous essayez de voir, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, c'était plutôt vers les 76e.
Enfin, d'un autre côté, le président de la FIFA, maintenant,
aujourd'hui,
il habite au Qatar.
Nous pouvons donc, mais ce n'est pas...
On peut remettre en cause le classement.
Non, mais s'il faut remettre en cause tout le classement, ce n'est pas lui qui le fait. Il ne s'assoit pas comme ça et il distribue bien des sûr. Points. Donc, pas pour moi, aujourd'hui, j'ai dit toujours qu'il faut faire très attention lorsqu'on est le domicile de quelqu'un et surtout lorsqu'ils auront quand même cet engouement-là de pouvoir partir, de pouvoir traverser. D'autant plus qu'aujourd'hui, même les équipes qui sont là ne sont pas aussi forte que ça, parce que moi je crois que l'équipe du Qatar peut créer de sérieux problèmes.
Alors,
même si elle ne fait pas
justement.
Beaucoup de bruit, et il faut faire attention. Il y a un proverbe africain qui dit « méfie-toi du chien qui n'aboie pas ».
Face à l'Équateur, Xavier, ça va être... souvent, on est un peu ronchon devant les matchs d'ouverture.
Ça risque d'être un spectacle, parce que le Qatar est une équipe qui procède plutôt en contre, avec une défense assez solide, un milieu de terrain très travailleur, et puis Al-Moez Ali et Akram Afif devant, surtout Al-Moez Ali. Et l'Équateur, c'est un peu pareil. Ils ont l'habitude, dans la zone sud-américaine, de laisser venir les adversaires.
C'est les Européens de l'Amérique du Sud.
c'est toujours
le gros défi physique, l'Équateur. Les deux lignes de 5 et au charbon.
Et voilà. Et donc, on risque d'avoir un espèce de faux match, en sachant qu'effectivement, celui qui gagne dans cette rencontre aura déjà une...
L'Équateur, s'ils sont malins, ils mettent le paquet sur le premier match parce que derrière, ils tapent et le Sénégal et les Pays-Bas. S'ils ont 3 points, qui a priori est pour eux face au Qatar, déjà, ils sont pas mal pour la qualif.
Oui, c'est sûr.
Rémi, moi, j'aimerais vous demander. Finalement, on a une compétition, c'est la première fois qu'elle se déroule donc dans un pays arabe. C'est aussi la première fois que ça se déroule dans un pays qui n'a pas une tradition de football, si ce n'est très récente. Y a-t-il un favori dans cette compétition ? Alors, les stars sont là, en dehors de Sadio Mané. On a Messi, on a Neymar, on a Mbappé, les 3 copains du Paris Saint-Germain. Et on a aussi Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous voyez un de ces 4 avec leurs sélections respectives, c'est-à-dire l'Argentine, le Portugal, la France ou le Brésil, soulever la coupe ?
C'est faire injure
à une équipe africaine.
À l'attaquant actuellement qui est le plus performant d'Europe, deuxième derrière quand même Haaland, c'est-à-dire Choupo-Moting. Il est l'attaquant qui est le plus efficace actuellement d'Europe. Il est au Bayern Munich. Choupo-Moting. Comment vous pouvez oublier Choupo-Moting? Attendez, Choupo-Moting est là, il a encore marqué contre le Panama. Mais attendez, maintenant vous me parlez de Messi. Bon, j'avais bien entendu que c'était star et tout, mais sauf que...
Et que c'est sa dernière Coupe du Monde.
Oui, c'est sa dernière Coupe du Monde, mais je veux dire qu'il n'a pas autant brillé en Coupe du Monde. Messi, de toutes les Coupes du Monde qu'il a participé, c'est en tout et pour tout 6 buts. Messi, non,
mais
en Coupe du Monde.
Il a disputé une finale en 2014 quand même.
Ah ben, j'ai dit, c'est 6 buts. Oui. Il faut que les gens le sachent. Ouais. Et que quand tu parles de finale.
Je parle des capitaines.
Quand tu parles des finales, je veux te dire juste qu'il n'a jamais marqué un but en un match d'élimination directe.
Donc
jamais.
Pour vous, ça sera Choupo-Moting. Enfin,
moi, si ce n'est pas Choupo-Moting, c'est Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, lui progresse. D'ailleurs, vous avez vu qu'à la dernière.
Sans lui, le Portugal a bien progressé hier.
Ah oui.
Ils ont été très bons. Avec Cristiano sur le banc là, ils ont gagné
4-0. Tu connais le nombre de buts qu'il a marqué à la dernière CAN?
Ils ont joué
la dernière Coupe du Monde.
Ah, Cristiano joue la CAN maintenant.
À la dernière Coupe du Monde, il a marqué 4. Au dernier round, tu connais combien de buts il a marqué?
On parle de la Coupe
5. Pour te dire que lui, il progresse.
2022. On parle de la Coupe du Monde 2022.
Zizou n'a pas marqué 6 buts en Coupe du Monde, mais il a brillé quand même un peu.
Alors Naïm, vous, entre les trois.
Ah, Neymar, le Brésil arrive avec la meilleure équipe possible, la plus complète sur toutes les lignes. Si on veut chipoter les latéraux, mais je pense que le Brésil est largement favori. Neymar est excellent depuis le début de saison. Il faut être honnête, on lui a suffisamment tapé dessus au PSG quand il n'est pas bon pour dire quand il est fort. Il est très très fort, le Brésil arrive en favori. Moi, je pense que l'Argentine n'est pas loin derrière parce qu'elle n'a peut-être pas les noms qu'elle a eus sur les générations précédentes. Peut-être que défensivement, on peut s'interroger sur les latéraux, sur la charnière centrale. Otamendi, il a 600 ans. Il n'y a que Rémi qui peut sortir ses stats tellement il est vieux.
Heureusement, 600 ans.
L'Argentine arrive avec une équipe,
tout ça comme
avec
ça,
une équipe
c'est du
très, très collective.
Otamendi a 600 ans. Vous avez entendu?
Ouais.
Vous vouliez dire.
En tout cas,
Brésil-Argentine.
Naïm, vous parliez de Neymar et de sa grande forme.
Oui.
Pour ceux qui nous regardent, ils vont pouvoir voir, regardez cette image. Alors, on lui a lancé un ballon d'un drone. Il y en a beaucoup qui se sont trompés. Richarlison,
Vinicius, Richarlison.
Vinicius. Et là, vous allez voir ce que fait Neymar quand le ballon lui tombe du drone. Et effectivement, ça confirme qu'il est en très grande forme. Il est... voilà, ça va être à son tour. Regardez.
Aucun ballon ne viendra du drone à la Coupe du Monde. On va jouer par terre.
Oui, mais un ballon qui vient du ciel.
On a beaucoup parlé.
Les ballons par hélicoptère, les ballons par avion. Ça, c'est de la
pluie. Il y a la reine de l'hélicoptère.
On a beaucoup dit, Messi, Ronaldo, c'est leur dernière Coupe du Monde. Très vraisemblablement, au vu de leur âge. Mais moi, je suis pas en train de penser que c'est la dernière de Neymar.
Bah c'est en tout cas ce qu'il avait laissé penser.
C'est ce qu'il avait laissé entendre.
Après, tout dépend aussi
son hygiène de vie. Voilà, oui. Son envie, son hygiène de vie,
peut-être
ne lui
chose.
Permettra pas peut-être d'être là dans 4 ans.
Donc, il veut la
je pense qu'il a jamais été aussi fort. En tout cas, depuis qu'il est parisien, il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Mmh. La dernière fois, c'est remonté à 2015 quand il est avec Barcelone. Je pense qu'il a l'équipe, l'équipe autour de lui. C'est complet. J'ai l'impression que le Brésil n'arrive pas justement dans cette espèce de dynamique qui est toujours la leur. On va prier, on va être ensemble, c'est limite une secte. J'ai l'impression que c'est leur année.
Xavier,
je
ne
suis
terminer.
Pas aussi optimiste au sujet du Brésil que
et pourquoi, Naïm Moniol,
parce qu'il y a une sélection très séduisante sur le papier avec beaucoup d'attaquants, 9 attaquants.
Ouais.
Mais quand vous regardez les défenseurs, vous avez Dani Alves, 39 ans, Thiago Silva, 38 ans.
Si tu veux chipoter les latéraux.
38 ans. Et surtout, il n'y a que 8 défenseurs.
Xavier, vous
donc, il n'y a que 8 défenseurs. Ça veut dire qu'entre ces deux anciens,
temps,
des vieillards...
Et
un suspendu ou quelqu'un comme ça, vous avez
alors
plus
vous,
des...
Alors, vous, entre les quatre, voilà, vous,
donc
vous allez parler de Mbappé,
Brésil-Argentine, bien sûr. Mais bon, j'en fais pas mes grands favoris. La France, c'est mon favori toute catégorie, évidemment. Mais je mettrai une pièce sur l'Angleterre. Parce que cette équipe d'Angleterre...
Non, mais je vous ai parlé des quatre, là. Voilà. Vous
sortez
même quelqu'un du chapeau.
Oui, bah voilà, je sors du chapeau l'Angleterre.
Voilà. Donc Mbappé, vous l'écartez. Vous ne le voyez pas éventuellement... Oui, parce qu'on disait entre les quatre, qui pourrait soulever la
Coupe. Ah non, mais moi, la France, évidemment. J'y crois toujours.
Vous c'est y croyez pas, toujours
bien sûr, bien sûr.
En dépit des blessures, en dépit de Benzema qui est incertain.
Justement, c'est une force que... La force du football français, c'est d'avoir ce réservoir qui se régénère en permanence.
Et c'est Mbappé.
Et ces contraintes liées aux blessures obligent Didier Deschamps à injecter du sang neuf avec du talent. Tchouaméni, Rabiot qui n'était pas à la dernière Coupe du Monde, Benzema qui revient.
Le problème, c'est que ça ne s'est pas vu sur la Ligue des Nations, ça ne s'est pas vu sur le dernier Euro.
La Ligue des Nations, ils ont joué 4 matchs au mois de juin, ils étaient tous rincés.
Comme tout le monde.
Mais à la Ligue des Nations, l'automne dernier, il y a un an, qu'est-ce qui gagne ? L'équipe de France. En battant la Belgique et l'Espagne. Donc, moi, je crois que cette équipe de France, elle peut être la troisième équipe, le troisième pays de l'histoire de la Coupe du Monde à gagner deux fois de suite le trophée, après l'Italie en 1938 et le Brésil en 1962.
On a parlé de l'Angleterre hier avec Bruno Constant, les vice-champions d'Europe, et on les a mis aussi comme plus que des outsiders quand même. Allez, on continue. On va faire un petit tour par les instances. Celui qui organise, qui orchestre toute cette grande fête du football, qu'est la FIFA.
Without further ado, I'll hand over to the FIFA president, who's going to say some opening remarks.
Hello, guten Tag, bonjour, buenos dias, buongiorno, salam aleikum.
Insondable Gianni Infantino et insondable FIFA. Le président de cette puissante fédération internationale, l'unique d'ailleurs, en poste depuis le 26 février 2016, l'avocat suisse qui a succédé à un autre avocat suisse qui était Sepp Blatter, il est candidat à son troisième mandat. Élection prévue à Kigali lors du congrès de la FIFA, ça se passera donc au Rwanda, ça se passera en territoire africain. On dirait que ça lui donne des idées, Rémi, de se perpétuer au poste. Pourquoi Gianni Infantino n'a pas de candidat contre lui, selon vous ?
Parce que...
Tout le monde a peur ?
Parce que, justement, il va
en Afrique, notamment.
Il va en Afrique. Vous savez, en Afrique, on fait des régimes avec des présidents de 44 ans au pouvoir, 45 ans. Il est en Guinée équatoriale maintenant. Celui qui est là depuis 43 ans dit qu'il va briguer un autre mandat pour 7 ans encore, bon, pour qu'il fasse 50 ans. Et au Cameroun, c'est la même chose. Donc, d'ailleurs, il a ramené ce contrat-là en Afrique où, généralement, il y avait élection au niveau de la CAF. Il a dit non, il n'y a plus élection. Entendez-vous, vous faites des petites magouilles à côté là et on vient candidat.
Par acclamation, comme pour la FIFA.
C'est une honte. C'est une honte. L'Europe, c'est le continent de la démocratie. Et encore, lorsqu'on est Suisse, je pose la question à quelqu'un d'entre nous ici. Qui connaît le président de la Suisse ? Presque personne. Parce que tout le temps, on échange. Mais comment se fait-il qu'un Suisse vient et dit maintenant au monde entier, moi je vais rester là ad vitam aeternam. Jean Avalanche, on pouvait comprendre peut-être qu'il venait du Brésil. 24 ans. Et après l'autre vient Sepp Blatter. Il nous tape 16 ans. 17 ans. Et maintenant celui-ci nous dit, il va passer 50 ans au pouvoir ou 200 ans au pouvoir comme Mugabe. Mais c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. C'est une honte.
Parce que Rémy Ngono n'a pas compris une chose, c'est que la FIFA.
Je crois qu'on a tous compris.
Le président, c'est que le président de la FIFA, c'est. Ce n'est pas une assemblée où on vote, c'est un PDG. C'est un PDG. Il est le directeur d'une société commerciale qui vend les droits télé de sa Coupe du Monde,
oui,
qui les organise, etc.
À la FIFA
et voilà. Et donc, du coup, il s'entoure de gens qui vont le réélire PDG parce qu'eux-mêmes y ont intérêt. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où le business tourne, il n'y a pas de raison d'en changer.
Ah, savez, mais attendez, il ne fallait pas enlever Sepp Blatter. Sepp Blatter avait trouvé combien de gens au niveau de la FIFA ?
Sepp Blatter, tous, il est parti
d'ailleurs,
parce qu'il avait un
Sepp
procès.
Blatter, on peut se dire, d'ailleurs, les employés n'étaient pas bien payés. Mais il a même ramené beaucoup plus d'argent que ce qu'on est en train de faire là comme publicité. Mais finalement, on nous a dit que Sepp Blatter, c'était l'agent de la corruption parce que plus on dure au pouvoir, plus on est corrompt. C'est un système, vous ne pouvez pas me dire que c'est une société où il n'y a qu'un seul individu qui doit gérer comme ça. Ce n'est pas une société privée, mon cher. Ce n'est pas une société familiale. Ce n'est pas une société familiale.
C'est devenu une société.
Elle devrait être mondiale.
C'est devenu une société.
L'Afrique, par exemple, avec 54 fédérations. Comment est-ce qu'on peut accepter la
Suisse ? C'est devenu une société. C'est devenu une société commerciale qui fait son business, qui fait du très bon business.
Et c'est lui qui l'a créé.
Avec énormément, c'est lui qui en a hérité. Effectivement, c'est l'héritier
hérité,
de Sepp Blatter.
C'est son père qui l'a créé.
Il est héritier de Sepp Blatter, c'est son père spirituel, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, il s'entoure de gens, notamment Fatma Samoura, de tous les continents, pour garder le pouvoir. C'est tout. Il faut sortir de sa tête que c'est une assemblée électorale.
J'ai une question, Naïm. Est-ce que vous, alors qui êtes si jeune, vous imaginez qu'un jour vous verrez une FIFA démocratique ?
Non, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, mais il ne faut pas rêver. Ni les fédérations nationales comme la 3F ou autres ne sont pas démocratiques non plus. Ce sont des arrangements, c'est un réseau, c'est une mafia dans certains cas. Mais
sûr que non, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a quand même le président de la fédération allemande qui a dit qu'il ne voterait pas pour eux et qui demande des changements de statut, par exemple, mais de faire respecter les droits de l'homme quand on attribue des chantiers ou des coupes du monde.
Oui, mais ça, c'est toujours très drôle.
Ça vient après.
Mais bien sûr, c'est toujours très drôle de respecter les droits de l'homme. Mais à ce moment-là, on fait une charte.
Je vous dis juste qu'il a déclaré.
À ce moment-là, on fait une charte avec des critères d'attribution pour les pays.
Peut-être que ça viendra.
Et puis à ce moment-là, plus personne ne l'organisera puisque tout le monde est mouillé dans le monde. C'est pas la question. Faut pas oublier qu'en 2016, l'idée c'était pas d'être président de la FIFA. C'est pour ça qu'on avait autant de candidats. C'était pas d'être président de la FIFA, c'était de faire tomber Blatter. Tout le monde était prêt à se présenter, pourvu que Blatter n'était plus là. Blatter n'est plus là, contrairement à ce que dit Rémi, il est parti pour des raisons juridiques. Maintenant, notre camarade, le football mondial, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est le niveau, c'est ce qui fait le niveau du foot mondial. C'est l'Europe avec l'argent de l'Asie. Infantino, il a l'argent de l'Asie, il a élargi la Coupe du Monde à 48, il va arroser plus de monde. Pourquoi est-ce que les fédérations le feraient tomber ? Ils n'ont aucun intérêt à le voir partir, malheureusement.
Et il sera donc réélu sans doute par acclamation et ça sera en mars prochain à Kigali. On continue et on termine, messieurs, c'est le moment des cartons.
Carton jaune !
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge !
Carton rouge !
Dans la confusion.
Carton vert !
Extraordinaire !
Rien à dire.
La surprise permanente de cette émission, ce sont les cartons, vos cartons que vous nous envoyez de si loin. Toujours très bien pensés, aujourd'hui sélectionnés par Sarah Loubakouche.
C'est Dieuvé, moi je suis au Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à toutes les nations africaines pour leur souhaiter bonne chance pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et les nations africaines, il est temps de remporter une Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'on rêve de ça.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à Nigasni, c'est Alpha Moulou depuis la BN République de Guinée. Donc, je ne vais pas donner un carton aujourd'hui, je veux juste exprimer ma profonde solidarité vis-à-vis du public sportif sénégalais suite au forfait de Sadio Mané à la Coupe du Monde. On aurait aimé voir Sadio Mané briller de mille feux dans cette Coupe du Monde, ça n'a pas été le cas. Et nous encourageons cette équipe sénégalaise, une équipe qui n'est pas qu'un seul joueur, bien que certains joueurs sont difficiles à remplacer. Il faut l'admettre, Sadio Mané n'est pas n'importe qui au sein de cette équipe.
Bonjour Radio Foot International, moi c'est Louis Dorsouma depuis le Tchad. J'attribue un carton vert aux 5 entraîneurs africains qui vont accompagner les 5 représentants africains à la Coupe du Monde. Je leur souhaite bonne chance et on attend les résultats positifs.
Bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Bekay Diarra depuis Dakar. Je donne un carton vert à Aliou Cité malgré la blessure de Sadio Mané. Il a tout fait pour nous convoquer. Vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal. Ok, merci.
Nous, Africains, nous sommes derrière vous. Les 5 représentants pour la Coupe du Monde. Nous vous soutenons jusqu'au bout. À l'union, union, union aux Africains, la Coupe reviendra.
Moi, c'est Nao Léoulou depuis Borumo, au pays des hommes intègres. Moi, je donne un carton vert à Hugo Lloris pour sa sortie médiatique. Il vient une fois de plus nous montrer que le sport doit être apolitique. Ce garçon a justifié son choix et moi, je suis d'accord avec lui.
Je nomme Julien depuis le Togo. Je donne un carton vert au Blaster du Ghana pour le match amical contre la Suisse. Ouais. Tout le monde ne croit pas au Ghana, mais le Ghana, c'est un vrai footballeur mondial. YouTube.
C'est moi, Bila Isaac, à Lubumbashi, en RDC. Avec moins de sentiments et plus de logique, je donne un carton rouge à mon joueur préféré, Cristiano Ronaldo, pour son interview diffusée récemment. Son désaccord face aux dirigeants de Manchester United pouvait être exprimé avec plus de courtoisie, pas comme il a fait.
Bonjour Radio Foot International, bonjour Ali, bonjour Monsieur Xavier Baé, Monsieur Rémi Ngono et puis Monsieur Frédéric Souto. Moi c'est je vous appelle de Londres, supporter d'Arsenal. Carton vert à mon club et il n'y aura pas de demi-surprise. Et à la fin aussi, on va essayer de voir si on pourra inviter Monsieur Rémi Ngono. Et c'est Xavier qui va valider cela. Merci et puis bonne émission.
Tenacity Sport dit depuis la RDC, précisément à Lubumbashi. Je donne un carton vert à notre club Saint-Éloi-le-Bobo pour leur qualification en Ligue des Champions africaine. Après 16 ans de souffrance, et voilà maintenant Ligue des Champions. Une dédicace à vous, champion. Je vous aime, bye.
Willy et Pierre, étudiant depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert ici à Kamavinga pour un message de soutien, d'être fort. Ça arrive. Il va falloir à des moments difficiles dans la vie. Donc, il est en train de traverser l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Mais la dernière décision reviendra toujours ici de l'entraîneur de pouvoir calmer le moral du petit avec son staff.
C'est Daniel Poitin Santo depuis Lubumbashi. Je donne un carton vert à la rédaction sportive de la RFI qui a décidé de nous faire vivre les matchs des nations africaines sur les antennes de la chaîne mondiale. Carton vert à vous.
Alors là, vraiment, tous ces enfants qui nous écoutent, ça nous fait chaud au cœur. Et on espère que vous serez fidèles pendant toute la Coupe du Monde. N'oubliez pas, pendant la Coupe du Monde d'ailleurs, nous serons en direct de Doha à partir de lundi prochain. Et nous le serons dans l'émission de 21h10 en temps universel. La première partie, en général, il y aura des matchs. Donc, nous viendrons dans la soirée pour faire le résumé et pour vous parler aussi du Qatar. Vos cartons, Naïm Moniol, quelle couleur ?
Carton rouge.
Ouais, ah oui, il commence fort, hein, Rémi. Hein, il vient se confronter à vous, il commence par un carton rouge.
Non, mais carton rouge à Didier Deschamps. J'aurais aimé voir Martin Terrier intégrer l'équipe de France à la place de Kolo Muani. Je trouve qu'il l'a mérité, qu'il est très fort et qu'en plus, il a un profil différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'en fait, en équipe de France, j'ai toujours l'impression de voir les mêmes joueurs arriver. Ils n'ont pas le même nom, mais ils ont le même profil, les mêmes caractéristiques, les mêmes défauts, les mêmes qualités. Ça me fatigue. Voilà, j'aurais aimé, il méritait d'y aller. Voilà, j'aurais aimé qu'il y soit. Donc, carton rouge à Deschamps.
Bon,
rouge
d'entrée. Un verre alors au petit Martin Terrier.
Et un verre au petit Martin Terrier, voilà.
Xavier.
Moi, un carton vert à la Coupe de France, parce que la Coupe du Monde commence, mais le football continue en fait. Et le football continue notamment au niveau des amateurs, mais même en France au niveau professionnel, avec la deuxième division, notamment le Amiens, cher à Naïm Moniol, joue ce week-end. Et donc, du coup, eh bien, il ne faut pas oublier que le football, ce n'est pas seulement les 800 joueurs qui sont au Qatar pour le moment. Il y a aussi tous ceux qui vont continuer à disputer des compétitions pendant cette période. Et la Coupe de France en est un exemple. C'est une compétition à laquelle on est attaché en France et où il y a aussi beaucoup de joueurs africains qui évoluent.
Rémi.
Alors, carton jaune adressé par Didier Franck Wadio à Vincent Aboubakar. Eh bien, Vincent Aboubakar, pour ceux qui ont regardé le match du Cameroun contre le Panama, quand la balle vient, lui court plus vite que la balle. La balle vient derrière. Quand la balle, maintenant, on lui dit de courir, eh bien, il ne rattrape pas la balle. Il est à contre-temps et on ne comprend plus rien de Vincent Aboubakar qui nous disait qu'il n'avait pas peur du Brésil, mais qui nous fait actuellement peur de conduire l'équipe du Cameroun en tant que capitaine. C'est très grave. Vincent Aboubakar, il faut le rappeler, déjà avec le championnat de l'Arabie Saoudite, 8 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Et depuis la saison dernière également, il a été pratiquement nul. Et on dit que c'est lui le capitaine des Lions indomptables. Mais non, Vincent Aboubakar ne peut plus continuer. Mieux, on nous met un choupeau moutin qui au moins peut encore faire quelque chose. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile.
Le carton de Radio Foot International est vert et il va à ce ballon mythique qui est le ballon de la main de Dieu. Celui qui, le 22 juin 1986, c'était au Mexique, eh bien, est rentré dans les buts poussé par Maradona. En fait, Maradona a ce jour-là marqué 2 buts extraordinaires. C'était contre l'Angleterre et ce ballon a été vendu 2 300 000 euros. Par qui ? Eh bien, Pierre, l'arbitre de 78 ans, il passe la balle. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci,
bon voyage,
Naïm, d'être venu ici dans ce café avec ce duo infernal, Xavier et Rémi. Et nous, on vous dit à très bientôt. Merci, Xavier. On se retrouve donc en direct de Doha. Merci à tous et bon week-end.